I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. On a tellement de choses vidéoludiques dont on doit vous parler. On a Stadia, on a Star Wars Jedi Fallen Order, on a Pokémon, on a le XO19 de Microsoft avec des annonces pour la Xbox. On a plein d'autres choses dont on va vous parler. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est la folie totale dans le monde du jeu vidéo. Mais heureusement, pour m'aider à naviguer ces eaux troubles et troublantes, et troublé, tout ce qu'il y a de trouble. J'ai deux personnes absolument formidables avec moi. Je suis Patrick Béja et d'abord, accueillons comme il se doit mon compagnon de longue date, Jika Loret, qui revient dans l'émission. Comment ça va, Jika ?
Salut Patrick, yes, ça va de retour après quelques complications de planning, on va dire, mais, mais ouais, ça va, je suis là.
très bien. Tu as testé un petit peu Stadia, tu as joué à des trucs, donc c'est bien. Tu vas pouvoir m'accompagner dans mes opinions qui sont à contre-courant de ce qui se passe sur Internet, peut-être, un petit peu.
Comme souvent.
Oui, c'est pas intentionnel, hein, c'est juste que je suis clairement anticonsensuel, tu vois, moi je suis un rebelle. C'est ce à quoi pensent les gens quand ils pensent à moi, ils se disent « Ah, Patrick, c'est carrément un rebelle, clairement. »
Oui, évidemment.
Un autre rebelle qui nous rejoint dans l'émission, qui a le courage d'affronter des jeux controversés comme Pokémon Sword and Shield, c'est Julien Inverno. Est-ce que je prononce bien le nom de famille ?
Oui, tout à fait. Absolument. Bravo.
Très bien. Merci, Julien. Tu as testé notamment Pokémon Sword and Shield pour Gameblog et tu es un journaliste expérimenté de la presse vidéoludique. Donc, merci de nous prêter ton expertise.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, tu as mis les yeux sur Stadia, toi aussi. Donc,
oui, seulement les yeux, mais oui.
Tu vas pouvoir nous livrer ton témoignage également. Et justement, je me suis demandé s'il fallait commencer par les jeux ou par Stadia. Donc, je suis allé sur Twitter et j'ai posé la question. Et les réponses étaient très équilibrées. On était à 50-50 pendant un bon moment. Là, les jeux gagnent un tout petit peu, 53-47. Alors, vous pourriez vous dire que, étant donné que j'ai posé la question, bah, je vais suivre l'avis des gens qui ont répondu sur Twitter. Mais pas tout à fait, parce que j'ai aussi posé la question aux patriotes du rendez-vous jeu, aux gens qui soutiennent financièrement l'émission, et chez eux, la réponse était très très claire, 100% de réponses pour commencer avec Stadia, et donc je vais suivre leur avis, parce que de toutes les personnes au monde qui existent, c'est évidemment eux que je préfère, et j'inclus là-dedans mes co-animateurs, mon enfant, ma femme, mes parents, tout ça, enfin tout le monde, moi c'est les patriotes qui sont mes personnes préférées au monde. D'ailleurs, j'en profite justement pour remercier certains de ceux qui soutiennent l'émission, notamment Jules, Thomas Barce, Fidel Castor, Johan Tiripati, il y a plusieurs personnes dont on connaît bien les noms là-dedans, Calment, Anna Land, Arthur Cornillo, Emric Omasias et Piscovi et Yamzo. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir financièrement le rendez-vous jeu pour lui permettre de continuer à être le meilleur. Le meilleur qu'il peut être, hein, pas le meilleur. On n'est pas si présomptueux qu'on dit qu'il est le meilleur podcast au monde. Maintenant, si vous le pensez, je ne vais pas vous arrêter non plus. Un service qui n'est peut-être pas le meilleur service au monde, c'est Stadia. Et dans nos discussions, juste avant de commencer l'enregistrement, on en a parlé un petit peu avec Jika et Julien. Et Jika a bien décrit la situation pour Stadia aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est pris un torrent de merde sur Internet. Et c'est un petit peu une situation qu'on voit de temps en temps quand les gamers sont énervés ou quand ils sont pris dans un mouvement de foule. Il y a une sorte d'avis unanime qui se forme et qui a tendance à « pile on », comme on dit en anglais, et à en rajouter à tel point que l'image qui se forme d'un truc, du service en l'occurrence, sur Internet, on devient un petit peu déformé, je crois, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas aujourd'hui. En un mot, est-ce que vous pouvez me dire, moi je vais faire un gros topo sur mes impressions sur Stadia, mais quand même je vais vous donner la parole avant. En un mot, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de votre expérience? JK, toi tu le testes depuis plusieurs jours, hein, donc en une minute quoi, quelles sont tes impressions?
Oui, on a eu la chance d'avoir un review, enfin un kit de test il y a une semaine maintenant, et en fait... Comme on s'y attendait et comme on s'en est assez rendu compte un peu sur le tard, c'est que c'est un lancement qui est assez raté, enfin qui est même raté parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont pas au lancement. Il y a un catalogue de jeux qui est pas très sexy, enfin qui est surtout pas très fourni. Par contre, moi je trouve, pour l'expérience que j'en ai eue, que la technologie fonctionne très bien, et l'énorme avantage que je trouve à Stadia sur le reste, même des autres concurrents sur le cloud gaming, c'est la simplicité et l'immédiateté d'utilisation. Il y a juste tu lances ton navigateur Chrome, t'appuies sur lecture, enfin tu cliques sur ton jeu, t'appuies sur play et c'est tout. Il y a pas d'installation, pas de téléchargement, etc. Et ça, je trouve que c'est le vrai plus aujourd'hui du service.
Ouais. Donc commercialement raté pour le moment en tout cas, mais techniquement réussi. C'est
ouais, voilà,
c'est un peu mon impression.
Je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais on l'a testé sur pas mal de connexions différentes. Et contrairement à beaucoup de confrères qui ont eu des problèmes, c'est-à-dire que le souci c'est que je peux pas garantir à tout le monde que ça va marcher, parce que quand tu lis les articles,
ça dépend de la connexion. Ouais.
L'expérience est très variable. Ouais, bien sûr. Mmh. Aux États-Unis notamment, on en parlera, j'ai l'impression que ça marche moins bien qu'en Europe, quoi. C'est bizarre.
Bah Julien, toi tu as, comme on disait, tu as posé les yeux dessus à la rédac de Gameblog, il a été en test également. Toi, quelles sont tes impressions en tant qu'observateur?
Bah écoute, de ce que j'ai pu voir, le testeur était en train de jouer à Tomb Raider dans une définition qui était assez lamentable, malgré la connexion fibre qu'il y a à la rédac. Donc forcément, c'était un petit peu déceptif de ce point de vue-là. Et plus généralement, au-delà de la sensation que j'ai eue face au jeu, moi j'avoue que je suis un peu traditionnaliste dans ma manière de voir les choses, et le dématérialisé de base me pose un petit peu problème. Donc même dans la philosophie de ce que veut proposer en fait Stadia, j'y suis un peu réfractaire. Bon, ça c'est un autre débat, mais après, de ce que j'ai vu, oui, c'était pas encore au point, même si évidemment à plein potentiel, c'est comme le dit très bien JK, c'est quelque chose de magique s'il s'agit juste de cliquer dans un navigateur et d'avoir accès à des jeux comme ça de manière très aisée, quoi.
C'est ça qui est important à distinguer, c'est l'état actuel et le potentiel. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se perdent, qui se noient dans l'état actuel et qui en tirent des conclusions presque à long terme. Pas vraiment, parce que ce qui est intéressant, c'est que toutes les reviews que j'ai lues en tout cas, disent, à part pour certains qui ont des expériences vraiment mauvaises au niveau technique parce que leur connexion, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas super bien, et ça c'est vrai que c'est l'un des problèmes du système, c'est que c'est évidemment dépendant de la connexion, mais au-delà de ça, la plupart des gens semblent dire, bon bah aujourd'hui, c'est pas une situation idéale pour telle et telle raison. Et le mouvement de foule que j'ai l'impression de voir sur Internet, c'est ils oublient le aujourd'hui et ils disent, c'est un service qui est pourri. Tout court. Et alors, c'est un problème de communication clairement du côté de Stadia, parce que, comme je le dis depuis des mois et des mois, c'est un service qui est en bêta et qui est encore plus en bêta d'après les dernières infos qu'on a eues juste avant le lancement, parce que, comme tu le disais, JK, il y a plein de trucs qui ne sont pas intégrés alors qu'ils avaient été promis. Et la com, je crois que j'ai rarement vu une communication aussi catastrophique depuis peut-être l'annonce de la Xbox One. Je crois que c'est le moment où j'ai eu le même sentiment, et je comprends pas pourquoi Google n'a... Tout ça aurait été corrigé simplement en mettant un petit tag bêta sur le truc et en disant, on va avoir 6 mois de bêta et après on lance. Peut-être qu'ils voulaient pas, justement, il y a une raison de com où ils se disaient, on lance tous nos services en bêta chez Google, et donc ça va mettre un stigmate difficile dont il sera difficile de se départir à terme, donc il faut surtout pas l'appeler bêta. Peut-être qu'il y avait une directive comme ça qui venait d'en haut, mais c'est clairement une erreur, parce que pour le coup, les gens le prennent comme un lancement, alors que pour eux, ils le communiquent comme un lancement, mais clairement, ça n'en est pas un, c'est une bêta. Et si on le considère comme une bêta, c'est beaucoup plus enthousiasmant et on lui passe beaucoup plus de choses. Je pense qu'il faut, comme je le disais, déterminer enfin, distinguer deux choses, c'est l'offre technique et l'offre commerciale. Et au niveau technique, moi, mon expérience a été hyper positive. Alors évidemment, comme on le disait, ça dépend des connexions de chacun. Mais moi, je suis... C'est même pas que je suis en pleine ville avec une connexion fibre à 500 mètres des serveurs, comme c'était le cas quand je vous parlais de la manière dont fonctionne très bien Shadow il y a quelques temps, quand j'ai testé à Paris. Là, je suis en Finlande, à la campagne, à comme je le dis souvent, 10 km du premier magasin. C'est pas le contexte citadin. Donc, le seul truc que j'ai pour moi, entre guillemets, c'est la fibre. Et pour moi, ça veut dire que techniquement, si on a la fibre, eh ben, ça peut marcher, ça peut marcher. Et quand je dis ça marche, c'est que sincèrement, j'ai beaucoup de mal à voir la différence avec un jeu qui tourne en local. Vraiment, hein, je suis sûr qu'on pourrait le voir si quelqu'un de plus jeune, les gens qui font attention aux poil de cul de frame près. J'ai vu beaucoup dans les reviews de gens qui montrent des images hyper zoomées avec là, la résolution, elle est passée à temps, et c'est pas exactement la même chose que le truc qui joue en local. Oui, évidemment, c'est pas aussi bien qu'en local, ça dépend de la connexion, ça dépend de peut-être la congestion du réseau. C'est vrai que quand j'ai testé en heure de pointe ici, ben, la manette était un petit peu plus flottante, la souris était un petit peu plus flottante sur Destiny 2, un petit peu, mais ça restait jouable, complètement jouable. Il y avait quelques frames qui sautaient un petit peu, mais vraiment, tout ça, si c'est clairement le cas, et ça veut dire que ça sera, je pense, pas aussi bien qu'un jeu en local pendant des années encore peut-être, aux heures de pointe en tout cas, ou selon certaines conditions de réseau, ça veut dire quand même que ça peut marcher. Et généralement, j'ai testé, là ça fait 24 heures et je teste régulièrement à différentes heures, et ben ça marche quand même en général super bien. Et donc le potentiel pour le futur est hyper positif à mon sens. Je crois qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, d'élitistes qui s'attachent trop à ces détails parce qu'ils voient pourquoi le service ne sera pas pour eux. Et ça, c'est vrai. Et c'est évident que ce service ne sera pas forcément pour eux comme machine principale. Mais il y a tellement d'avantages par ailleurs. Le fait, je pense que ça, il faut avoir mis les mains dessus pour le comprendre. Le fait qu'on puisse lancer un jeu directement depuis le navigateur. Moi, je l'ai testé uniquement par navigateur. Je n'ai pas encore reçu mon matériel, donc je ne l'ai pas testé sur la télé. Donc, prenez ça pour ce que c'est. Mais le fait de pouvoir lancer un jeu dans le navigateur comme un site web, c'est magique. C'est vraiment magique. Et c'est un truc qui, même pour les gens qui disent « Oh, le streaming, jamais pour moi, machin », vous aurez votre console qui sera installée dans votre salon ou vos jeux que vous allez installer. Mais je suis convaincu que pour un jeu qui n'est pas disponible sur votre plateforme ou un truc que vous voulez tester rapidos ou un jeu qui est moins prompt à faire aux problèmes de précision, je suis convaincu que le streaming va intégrer l'écosystème du jeu vidéo pour énormément de monde beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Ça va pas devenir l'aspect principal et ça c'est une fausse question, c'est une fausse manière de poser la question et de poser le problème. Il y a des gens qui disent est-ce que ça va devenir ma manière principale d'accéder aux jeux vidéo? Non, évidemment que non. Pour la plupart d'entre nous, ça va pas devenir la manière principale, mais c'est acceptable, c'est 80% acceptable pour 80% des gens, et il y a la force de frappe de YouTube, parce que là on passe à la question commerciale. Aujourd'hui, non, l'offre est recommandable à personne. Là, je suis complètement d'accord avec les reviews, c'est un truc que je recommanderais à simplement personne aujourd'hui, parce qu'il faut payer pour y avoir accès, etc. Et cet aspect communication est hyper important, il y a plein de gens qui comprennent pas, toujours pas, ce qu'est Stadia, c'est-à-dire que entre guillemets, moi ce que j'appelle le vrai lancement en 2020, eh ben le service sera accessible gratuitement. C'est-à-dire qu'il faudra acheter les jeux, bien sûr, mais il n'y aura pas d'abonnement à payer. On ne va pas perdre ces jeux quand on arrêtera de payer l'abonnement, comme l'ont laissé penser certains, comme ont répondu certains sur Twitter. Ça sera un truc qui sera accessible gratuitement depuis votre navigateur. Vous achetez le jeu et c'est parti. Et il y aura même, j'imagine, des sessions de 2 heures gratuites pour tester tel jeu, pour voir s'il vous plaît. Et donc, ça va amener énormément de jeux à le tester et à s'habituer à ce type de confort. Moi, je le compare un petit peu à la différence entre devoir se lever et aller à son étagère pour prendre les jeux et les mettre dans sa console et juste lancer le jeu qui est installé parce qu'on l'a téléchargé. Et ben on se constate que même si ça a l'air hyper minime, il y a plein de gens qui aujourd'hui préfèrent télécharger des jeux plutôt que de les acheter en disque parce que c'est juste plus pratique, plus simple, moins prise de tête. Et pourtant c'est rien du tout. Et ben il y a une même différence entre ces deux éléments et le fait de devoir installer, maintenir ces jeux, lancer Steam, lancer les downloads, lancer les updates. Et juste cliquer et lancer le truc. Et cette praticité alliée à la puissance de frappe de Google et la facilité d'accès et le fait que sur YouTube, il va y avoir des pubs et le fait de lancer le jeu tout de suite, jouer maintenant si vous voulez, quand vous voyez le trailer d'un jeu, et ben ça rend le truc complètement incontournable parce que ça fonctionne. Moi, je l'ai même testé en 4G et en 4G, je m'attendais à ce que ça marche pas du tout. Et ben, même dans ma campagne, loin de tout, en 4G, ça fonctionne. Là encore, c'est pas idéal. Il y a des frames qui drop, il y a des petites baisses de résolution, mais ça fonctionne. Et pour plein de cas d'utilisation, ça peut être utilisable. Et surtout, je le précise, quand je passe simplement par la fibre, par le navigateur, ça fonctionne comme si c'était en local pour moi, vraiment. Donc, j'insiste, l'offre commerciale aujourd'hui est super pourrie. Il y a quand même des trucs inattendus. Il y a Samurai Showdown qui est offert en plus de Destiny 2. Ils ont des réductions de prix très substantielles pour les gens qui ont l'abonnement pro pour certains jeux. Il y a genre entre 30 et 50% de réduction si vous voulez acheter les jeux. Bah, j'en achète quand même aucun parce que, évidemment, Stadia aujourd'hui, comme je le répète, n'est pas quelque chose de vraiment intéressant. Mais ils vont pouvoir continuer à pousser sur ces leviers, ils vont pouvoir continuer à le pousser. Et surtout, la conclusion que je veux donner à tout ça, c'est que la base, c'est le plus important, la base est saine. Et contrairement à ce qui s'est passé avec la Xbox One, où ils devaient convaincre des gens d'acheter la console, et quand ils ont pas réussi, quand ils ont raté leur communication, eh ben, ça a provoqué une réaction en chaîne qui a fait que tout s'est cassé la gueule sur la Xbox One. Là, ça a beaucoup moins d'importance parce que l'accès sera là pour tout le monde de toute façon d'un simple clic. Donc, ils vont réussir à toucher les gens quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, le lancement, enfin, c'est pas un lancement, c'est une bêta, c'est pas super convaincant, mais les bases, le plus important, c'est-à-dire le fait que ça marche comme ça aussi bien que ça soit le cas, je ne m'y attendais pas et ça, c'est le plus important. Et comme ça fonctionne, le potentiel pour l'avenir est hyper est complètement présent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à 100%, mais ça veut dire qu'ils peuvent complètement réussir. Est-ce que ça vous parle, ce long topo que j'ai fait, cette analyse que j'ai fait, JK, ça te paraît cohérent ou je suis trop...
Je suis assez d'accord sur pas mal de points. Effectivement, le vrai lancement, enfin là on va juger vraiment, ça va être l'année prochaine, quand d'une part il y aura l'offre gratuite qui sera lancée, et d'autre part il y aura aussi toutes les fonctionnalités annoncé et attendu, notamment le streaming sur YouTube, effectivement, le fait de pouvoir lancer un jeu quand on voit un trailer tel qu'il le voyait, etc. Après, moi, ce qui je pense qu'est rageant et ce qui je comprends la colère de certains, c'est par exemple aujourd'hui on dit tout c'est une bêta, etc. Effectivement c'est une bêta, mais c'est une bêta quand même qui te demande de payer 129 euros, parce qu'aujourd'hui c'est la seule façon d'accéder à Stadia, c'est d'acheter le pack folder, enfin la première édition à 129 euros, qui inclut la manette, le Chromecast et 3 mois d'abonnement. Donc c'est la seule façon d'accéder au service. Alors donc c'est vrai que c'est une bêta, mais qui revient quand même un petit peu cher. Après, on peut dire c'est souvent comme ça avec ce qu'on appelle les early adopters, ou tous les gens qui vont acheter une nouveauté les yeux fermés, ben forcément ces gens-là payent des pots cassés. Moi je vois à mon travail par exemple, ils sont quand même assez nombreux à avoir commandé le pack Founder quasiment dès l'annonce, et ben il y en a aucun qui l'a reçu encore, alors que le truc est officiellement dispo depuis 2 jours. Donc déjà là il y a un vrai problème de à la fois de communication et de gestion en fait de la part de Google, et c'est dommage. Et par contre, effectivement, je te rejoins sur la technologie. Donc moi en termes d'expérience, je l'ai testé sur trois connexions différentes au boulot, au travail. Donc conditions idéales, fibre à 200 mégas en Ethernet. Aucun problème, honnêtement, ça c'est vrai que c'est très impressionnant. En plus, ce qui est cool, c'est que je travaille pour jeuxvideo.com, donc j'ai fait essayer notamment Mortal Kombat, donc à des spécialistes de la baston, j'ai fait essayer Destiny à des gens qui jouent beaucoup à Destiny. Ils m'ont tous dit Dans ces conditions-là, en tout cas, c'est clair que je vois pas ou quasiment pas la différence avec, en tout cas en termes de latence, avec une console.
Mais c'est ça qui est. Je veux insister sur ce point parce qu'il est, il se noie dans les plaintes légitimes, mais les plaintes sur d'autres aspects comme ceux que tu as évoqués. Le truc le plus important dans tout ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est passé, il y a un ou deux ans, de gens qui disaient « Non, mais attends, le streaming, mais jamais de la vie, qu'est-ce que tu racontes ?» Jamais. Et aujourd'hui, c'est genre « Ah oui, mais non, je préférerais quand même xCloud, parce que xCloud, il y aura l'option streaming ou pas. » Ce qui est complètement vrai, c'est complètement légitime. Mais le truc qui est le plus important à retenir, et si vous ne le voyez pas parce que l'arbre cache la forêt, c'est ça, c'est que ça fonctionne presque aussi bien qu'en local. Et ça, c'est invraisemblable. C'est incroyable. Jamais on aurait pensé que ça fonctionnerait aussi bien
il y a quelques mois, honnêtement, Shadow a la même qualité de connexion depuis un petit moment, tu vois. Donc, enfin, moi, disons...
Ouais, mais les gens le croient toujours pas. C'est ça qui est fou. Les gens qui n'ont pas mis les mains dessus...
Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est pas tant la qualité de la latence. J'ai été agréablement surpris, mais ce qui m'a impressionné, comme je l'ai dit, c'est la simplicité du truc. Ouais. C'est cliquer pour un bouton pour lancer ton jeu, et ça, c'est génial. Et juste pour terminer, moi, je l'ai aussi testé à la maison. Donc, je suis aussi en fibre, hein, mais j'ai testé exclusivement Wi-Fi, avec en plus un Wi-Fi qui est correct, à 35 mégasecondes, 40 mégasecondes. J'avais aussi la télé allumée avec du streaming, ma femme sur l'iPad, etc. Et là encore, ça marchait très correctement. Enfin, en tout cas, en termes de latence, ça allait très bien. Et j'ai un collègue qui a un ADSL à 15 mégas, donc vraiment le minimum. Et là, clairement, il m'a dit que l'expérience n'était pas idéale, mais comme tu disais, ça marchait. Il y avait quand même régulièrement des pertes de frame. Et aujourd'hui, en fait, le principal problème quand on a une connexion qui n'est pas terrible, et même sur une bonne connexion, c'est que, quoi qu'on en dise, oui, vous aurez une perte visuelle. Techniquement, on voit la compression. On est limité pour le moment en 1080p, donc en Full HD sur les écrans d'ordinateur. Vous pouvez monter en 4K théoriquement sur le Chromecast. Mais c'est clair que vous n'aurez pas la même expérience. De toute façon, Stadia ne se destine pas à aux hardcore gamers qui jouent sur console ou sur PC depuis des années, qui ont de toute façon déjà fait les jeux qui sont au lancement, hein, qui ont déjà joué à Red Dead 2, qui ont déjà joué à Assassin's Creed, qui ont déjà joué à Tomb Raider.
Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais il faut racheter les jeux ». Mais bien sûr, mais aujourd'hui, là encore, statut bêta, lancement raté.
Je relève quand même qu'il y a un vrai problème de communication de la part de Google, c'est que tous les gens à qui j'en parlais, donc franchement, c'est pas pour dire, mais ça fait une semaine que je ne parle que de Stadia. J'étais chez Europe 1 hier avec, dans la matinale pour en parler. J'ai fait le journal de jeuxvideo.com, j'ai fait plein d'émissions pour en parler. À chaque fois, la même réaction des gens, que ce soit du très grand public ou des gens qui s'y connaissent, c'est que la plupart, on n'avait pas compris qu'il fallait acheter des jeux, en fait. Et là, il y a un vrai problème de communication de la part de Google. Parce qu'à l'heure où le moindre abonnement à 10 euros par mois, que ce soit Netflix ou le Game Pass ou autre chose, te donne accès à un catalogue assez conséquent d'œuvres culturelles ou de séries, de films, de jeux, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, Google qui arrive avec un abonnement à 10 euros par mois et en plus derrière des jeux que tu vas devoir payer quasiment au prix fort, parce qui sont a priori entre 40 et 60 dollars, là, je pense qu'il y a dans la tête des gens, il y a un truc qui ne colle pas, en fait.
Je pense que
Google va avoir un vrai problème de modèle économique. Et alors, effectivement, l'abonnement gratuit va peut-être résoudre ce problème.
Complètement.
Mais par contre,
à mon avis,
je pense que pour l'abonnement payant, il va falloir qu'il fasse un effort là-dessus, qu'il propose plus de jeux gratuits. Enfin, il va falloir qu'il trouve une solution, quoi.
Bah, le fait d'avoir 30 à 50% de réduction sur les jeux déjà existants, quant à l'abonnement payant, c'est impressionnant. Mais la communication est lamentable. Comme je disais, j'ai pas vu une erreur de communication aussi énorme depuis le lancement de la Xbox One.
Et surtout que depuis une semaine avant le lancement, chaque jour on apprenait qu'il y aurait des fonctionnalités.
Ouais.
Les gens, il y a des annonces. Alors il y aura pas ça. Donc évidemment que la magie du truc elle est complètement flinguée, quoi.
C'est sûr. Mais d'une part, tout ça dans 6 mois, on n'en parlera plus. Enfin, on en parlera comme d'un mauvais souvenir.
Probablement.
Et puis surtout, tous ces problèmes que tu évoques et qui sont encore une fois complètement légitimes, c'est des trucs qui, une fois que tu peux cliquer sur un lien et à la fin de ta vidéo YouTube et lancer le jeu immédiatement dans ton navigateur, cette base, ce cœur-là du service qui marche super bien, eh ben, tu vas oublier tout le reste. Je te garantis que, pas pour tout le monde, mais comme ça me fait penser à Apple, tu sais, Apple, ils font 80% de ce dont les gens ont besoin pour 80% des gens. Et tous les gens qui sont un petit peu technophiles, genre élitistes, machin, ils disent « Ah, mais Apple, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, c'est de la merde parce que ceci, c'est de la merde parce que cela. » Un petit peu moins maintenant, mais on l'a beaucoup entendu pendant très longtemps. Eh ben, les gens qui ne sont pas à fond sur ce genre de problème, ils s'en foutent et ils utilisent des appareils Apple. Là, je pense qu'on va avoir un petit peu le même type de développement sur les années à venir. Hein, ça ne va pas être dans les 6 mois qui viennent, mais sur les années à venir. Et je pense que Stadia ne va pas complètement conquérir l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, mais va devenir un acteur qui compte, et le streaming par Stadia ou par d'autres va devenir une partie de notre expérience vidéoludique beaucoup plus vite qu'on ne le pense et qu'on ne le pensait il y a quelques temps.
Ah bah ça, ça par contre j'en suis convaincu que le cloud gaming sera quelque chose de très d'important en tout cas dans les années à venir, et 2020 va être une année charnière parce que il y a énormément de personnes qui lancent leur service, donc il va y avoir une bataille des plateformes comme c'est le cas aujourd'hui sur la vidéo, donc après on verra
il va y avoir des morts, mais
clairement le cloud gaming, ça y est, on arrive 2020 en tout cas pour moi c'est l'an 1, c'est vraiment l'an 1 du cloud gaming au niveau du grand public, quoi.
Et d'ailleurs, Amazon semblerait être en train de préparer son lancement de son service cloud gaming pour 2020 également. Donc, il va y avoir du monde. Ce qui est sûr, c'est que dans toute cette bataille, ceux qui sont le mieux positionnés, c'est Microsoft avec le service Xbox X Cloud. Parce que pour le coup, si tu es un petit peu pas sûr, bah, tu peux acheter ton jeu ou avoir ton abonnement chez Microsoft. Et donc, si tu veux, tu installes ton truc et tu peux aussi l'avoir en streaming avec X Cloud. Ça va être de loin l'offre commerciale la plus convaincante, je pense, de toutes celles qu'on va voir, quoi.
Si leur technologie est au point, je vois pas comment Microsoft pourrait pas, alors je sais pas forcément être premier, mais en tout cas avoir un vrai succès, parce que comme tu dis, là ça regroupe tous les avantages de tout, la possibilité de jouer offline, enfin de jouer en local,
de jouer sur PC, de jouer,
voilà,
sur,
jouer sur PC,
console,
sur console, ton abonnement unique qui donne accès à tous les jeux, enfin voilà, franchement ils a priori sur le papier c'est eux qui ont tout compris, quoi. Ouais. Après on verra la réalité des choses, quoi.
Avec encore une fois la force de frappe des autres acteurs comme Google avec YouTube, Amazon avec Twitch évidemment, qui peut quand même compter mine de rien, parce que encore une fois quand t'es en train de regarder ton streamer préféré qui joue à un jeu et à la fin de son stream tu dis ah bah je vais le tester aussi, tu cliques quelque part et t'es en train de jouer en 2 secondes, encore une fois il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est magique, et je crois que les gens qui n'ont pas testé ces trucs-là ne peuvent pas comprendre. C'est comme avoir un enfant, en fait. Quand tu peux expliquer autant que tu veux aux gens qui n'en ont pas un, tant que les gens n'en ont pas un, bah, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Donc,
Et il n'y a pas de bêta avec un enfant en plus.
je peux te dire que les 3 premiers mois, c'est bien une bêta. Hein. C'est pas fini du tout, et même après. Bah, justement, Julien, je te redonne la parole. Est-ce qu'on t'a un petit peu convaincu des qualités potentielles de Stadia, ou est-ce que tu restes quand même sur ton impression de moyenne avec tes premières... ta première expérience?
Écoute, je pense que il s'agit aussi d'un problème d'habitude de jeu, parce que finalement le jeu en streaming, ça fait presque 10 ans qu'on en parle. Moi je me rappelle Don Live à l'époque, qui avait fait un petit peu auprès des spécialistes son effet. Depuis on a eu aussi Shadow. Ce sont pas quand même des modèles qui me semblent naturels pour la plupart des joueurs, et ce problème de communication autour de la bêta de Stadia, je crois que ça dessert beaucoup encore le streaming en ligne, et que finalement c'est qu'à partir de l'année prochaine, si vraiment Google arrive à rectifier le tir et en tout cas changer la perception de son service, qu'on pourra là alors peut-être vraiment voir ce qu'il en est. Mais ce problème de communication autour de cette bêta, il est à mon sens très important, parce que
ça va laisser des traces, tu veux dire.
Exactement, ça reste encore obscur pour beaucoup de personnes. Et puis, comme tu le disais, c'est peut-être pas fait pour les hardcore gamers qui vont être très tatillons sur la frame près, etc. Mais j'ai pas l'impression non plus que pour l'instant le grand public soit vraiment très au courant de ce qui se passe. Et ça reste encore très nébuleux. Si Google l'année prochaine arrive à être un peu plus clair et proposer une offre un peu plus costaud, là on pourra discuter, quoi.
Je crois qu'on est vraiment dans une situation où, d'une part, bah encore une fois, je le répète, mais YouTube va changer complètement la donne pour la perception de ce service. Et d'autre part, pour les hardcore gamers que nous sommes tous, je crois qu'il y a une composante de réfractaire à la base, de la même manière qu'on pouvait l'être avec l'idée de télécharger tous ces jeux et d'installer tous les jeux sur son PC. quand ces processus ont commencé à arriver. Souvenez-vous, pour les plus âgés d'entre nous, tout le monde se disait « mais enfin, t'es fou, j'ai pas la bande passante qu'il faut, je veux pas stocker mes jeux comme ça sur mon PC, je veux les jouer sur CD ou je veux au moins les installer ». Enfin, il y avait beaucoup de réfractions à cette idée et on se rend compte que même 5 ans plus tard, tout le monde ne faisait quasiment que ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de ça dans ce dans cet aspect de la technologie. Mais bon, on verra. L'avenir nous le dira. Bon, on a fait une grosse partie sur le sujet controversé de Stadia. Je vous propose qu'on se détende un petit peu avec un sujet qui n'a absolument aucune controverse, pas de Dexit, pas de rien du tout, c'est-à-dire Pokémon épée et bouclier. Moi, je suis pas du tout un amateur de la série, donc je te laisse la parole, Julien. Est-ce que Pokémon épée et bouclier... J'ai deux questions. Est-ce qu'il est bien ? Oui. Est-ce qu'il est bien et est-ce que pour les anciens, pour les fans, c'est frustrant d'avoir les problèmes dont beaucoup de gens ont parlé, et pour les nouveaux, est-ce que c'est une bonne entrée dans la série ? Donc ça fait trois questions en fait, je n'ai pas compté.
Ok, alors on va commencer par la dernière. Je pense en effet que Pokémon Bouclier et Épée sont peut-être les meilleurs épisodes pour commencer si on est novice de la série. Déjà parce que c'est le premier duo de jeux qui arrive en convergence avec la Switch, donc on a cette faculté de pouvoir avoir sa console de salon dans les mains avec tout ce que ça induit, un peu plus de puissance et de confort. Et plus généralement, le confort, c'est vraiment une des optimisations de ce nouveau duo de jeux qui est beaucoup plus accessible sur plein d'aspects par rapport aux jeux précédents. Tu me posais aussi la question de savoir si c'est un jeu qui pouvait convenir aux anciens comme aux nouveaux venus, et c'est là où on peut peut-être mettre un bémol. Le jeu a été reçu assez froidement par la critique par rapport aux jeux précédents, même si les notes restent globalement bonnes, correctes, mais bon, elles sont moins enthousiastes que d'habitude. Tout simplement parce qu'il faut savoir que depuis 1996 et la sortie du premier duo de jeux Pokémon au Japon, la formule du jeu développé par Game Freaks, donc c'est vraiment la série canonique, hein. On ne parle pas de Pokémon Go, de Pokémon Snap, c'est vraiment les épisodes à chaque fois qui sortaient jusque-là exclusivement sur console portable et en duo. Depuis 1996, on est vraiment sur la même formule à chaque fois. Pour ceux qui ont pu s'essayer à tous les jeux Pokémon, on est face à un JRPG très traditionnel, avec une équipe de 6 Pokémon à faire évoluer en niveau, comme dans un RPG japonais classique, et on est toujours dans le même schéma, récupérer d'abord son Pokémon, soit de type plante, de type feu, de type eau. On a toujours un rival au fur et à mesure de l'aventure pour nous défier et nous faire progresser. Et de nouveau...
C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, effectivement, tous les jeux, comme pour un peu n'importe quelle série, c'est toujours un peu la même chose, mais peut-être encore un petit peu plus pour Pokémon, on a l'impression que Game Freak et Nintendo refont à chaque fois un petit peu le même jeu quand même, non ?
Absolument, ouais, tout à fait. Celui qui avait un petit peu changé la donne, c'était à l'époque sur DS, il y a maintenant au moins 5-6 ans, je pense. C'était Pokémon Black and White qui proposait un scénario un petit peu plus intriguant, intéressant, parce qu'on se retrouvait face à un méchant, entre guillemets, qui lui était pour la libération des Pokémon. Il ne voulait plus voir les Pokémon comme des créatures asservies, mais comme des Pokémon libres, donc il y avait un peu plus une part de réflexion là-dessus.
Mais ça évidemment, fait 10 ans, Pokémon Black and White, hein, c'était 2010.
Exactement,
donc
ouais, bah voilà, tu vois, ouais, ça fait bien plus, les années passent. Mais du coup, on avait quelque chose d'un peu moins enfantin, et justement, c'est ça le dilemme avec Pokémon à chaque fois, enfin, il y en a plusieurs, c'est que d'abord, une nouvelle génération de Pokémon, ça veut dire aussi une nouvelle génération d'enfants, toujours pour y jouer. Donc eux, forcément, cette répétitivité, si c'est leur premier Pokémon, ils ne l'ont pas eu avant. Et Game Freak, c'est aussi un petit studio qui a dû beaucoup grossir ces dernières années. Et ça explique d'ailleurs les défauts qu'il peut y avoir sur ce Pokémon Switch et qu'on comprend très vite que en arrivant sur une console qui est donc transportable mais qui a priori aussi a les qualités d'une console de salon, donc avec un affichage HD, on imagine aussi un traitement graphique plus ambitieux des Pokémon, etc. Seulement ça c'est possible quand on a une équipe derrière qui est capable de proposer ça, et surtout quand il n'y a pas un duo de jeux qui doit être sorti tous les ans. Et c'est aussi la limite là dans laquelle se trouve Game Freaks avec cette convergence pour la première fois avec une console.
C'est pas tous les ans Pokémon quand même, c'est tous les 3-4 ans, non? Quand même.
Non, c'est quasiment tous les ans, voire tous les deux ans, on se retrouve avec un duo de jeux Pokémon.
Le premier, que c'était à ce point, ouais, d'accord.
Et si, parce que le truc, c'est que, par exemple, sur Switch, le premier duo de jeux qui était sorti, c'était il y a un an, c'était Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Let's Go Pikachu.
Ah oui, bien sûr, ouais.
Voilà, qui était en fait un remake de Pokémon Jaune. Et là, pour la première fois, on a un jeu original qui est arrivé donc sur Switch, et je pense que la communauté, aussi influencée par la communication de Nintendo, qui, dans un premier temps, le présentait un petit peu dans ses décors, dans sa liberté, comme une sorte de Zelda Breath of the Wild, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, quand on a le jeu entre les mains. Et je pense que pour la première fois, il y a eu aussi cette grosse déception d'avoir depuis des années attendu un jeu Pokémon sur une console avec des performances un peu plus costaudes que la 3DS, de la DS ou la Game Boy Advance. Et du coup, bah là, le compte n'y est pas, étant donné que, comme on a pu le voir aussi, on retrouve en fait des visuels de jeux DS, de 3DS, pardon, qui ont juste été retravaillés pour cette nouvelle version qui n'est pas à la hauteur finalement de la machine sur laquelle elle tourne.
Donc il y a déjà cette déception d'une part, et puis il y a l'histoire des Pokémon, enfin du Dexit, du fait qu'on ne peut pas importer tous ces Pokémon de son Pokédex historique dans ce jeu.
Ouais, il y a un Pokédex qui est limité en fait dans ce jeu. On a environ 400 Pokémon, parmi lesquels 30 nouveaux. En fait, le Pokédex est composé d'une sélection de tous les Pokémon qu'on a pu voir dans les différents jeux jusqu'à aujourd'hui. Ce qui en soi, à mon sens, n'est pas vraiment un problème, dans le sens où si on se retrouve avec un Pokédex qui réunit un millier de Pokémon, bon, c'est peut-être pas forcément l'idéal, et finalement une sélection des meilleurs des différentes générations peut être agréable. Mais c'est que cette manière de faire, en fait, elle s'accompagne en général dans le jeu de déception par rapport à la liberté, de déception par rapport au renouvellement, et aussi un manque par rapport à des attaques qui ont pu être enlevées, et aussi pour certains, alors moi je le présente plutôt sous un jour positif, c'est-à-dire que pour vous dire un petit peu à quel point des fois Pokémon pouvait être archaïque, on combat donc avec une équipe de 6 Pokémon, mais on a évidemment en réserve dans des boîtes PC, c'est le nom, ça s'appelle comme ça, tous les Pokémon qu'on a pu capturer. Et jusqu'à maintenant, quand on voulait changer son équipe, il était obligatoire d'aller dans un centre Pokémon pour aller les sélectionner. Chaque personnage en combat gagnait de l'expérience essentiellement pour lui et ne le partageait pas avec les autres Pokémon. Maintenant, tout ça, c'est terminé. On peut remodeler son équipe où qu'on se trouve dans l'aventure. Et désormais, quand un Pokémon combat, l'expérience en combat ou pendant les chasses est redistribuée parmi tous les Pokémon. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on trouve quand même plus de confort de jeu, mais pour certains qui ne seraient jamais essayés à la série, ça semble quand même tout à fait normal, mais ça prouve bien que Pokémon reste d'abord une série de RPG très traditionnelle, et ça il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire que si on veut commencer Pokémon aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'on se retrouve quand même face à une intrigue qui est très enfantine, hein. C'est un univers très mignon d'abord pensé pour les enfants, et surtout on se retrouve dans un jeu, je dirais, on a souvent du mal à le comparer Pokémon, mais finalement c'est dans la lignée des premiers Dragon Quest. C'est quelque chose de très tradit, de très rigoureux, et qui peut être un peu peu dur pour ceux qui n'auraient jamais eu d'affection particulière pour l'univers de Pokémon de s'y plonger dedans facilement, en fait, quoi.
Mais du coup, j'ai l'impression que tu me dis qu'ils ont déçu, qu'ils sont un peu en train de décevoir tout le monde, quoi. Parce que pour les nouveaux, c'est, ou à part les enfants qui sont en fait leur cœur de cible de traditionnel et dont tous les fans de Pokémon aujourd'hui, en fait, ont découvert et aimé Pokémon quand ils étaient tout petits. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils sont plus exigeants, donc c'est difficile de réconcilier ces demandes, ces nécessités dans la tête. Mais du coup, il est bien ou pas, ce Pokémon ? J'arrive pas à savoir, en fait.
Eh ben, en fait, il est bien. Comme je l'ai dit au début, si on veut découvrir Pokémon et si vraiment on a joué à aucun jeu avant et qu'on n'est pas rebuté par quelque chose qui des fois peut être un peu archaïque, ça peut être évidemment très intéressant et c'est certainement celui qu'il faut essayer. Par contre, si on a déjà joué à Pokémon régulièrement, c'est déceptif parce que encore une fois, pour la première fois, on se retrouve avec ce Pokémon à la convergence avec une console de salon. Donc évidemment, il y avait beaucoup de fantasmes à propos de ça, et vu que c'est une formule qui ronronne depuis, à mon sens, depuis déjà des années. Hein, moi, je sais que même déjà les précédents épisodes portables me semblait quand même bien trop ronronné à apporter des innovations par touches bien trop petites. Et du coup, à la convergence avec la Switch, c'est évidemment déceptif parce qu'on pensait qu'il y aurait de nouveaux modèles 3D pour les Pokémon, ce qui avait été d'ailleurs annoncé par le producteur du jeu avant que des passionnés découvrent il y a quelques jours, en fouillant dans les lignes de code, qu'en fait les modèles des Pokémon étaient des modèles 3D de jeux précédents.
Oui, ce qui d'ailleurs a donné lieu au hashtag Game Freak Lied, qui est une expression de frustration assez extrême, on va dire. Mais
absolument, un peu abusive, sans aucun doute. Mais en tout cas, c'est très surprenant parce que depuis quelques années, même sur portable, même si on peut se dire que déjà ça tourne en rond, ça fait quand même des années que Pokémon continue d'avoir d'excellentes notes.
Ça qui est bizarre. Je comprends pas pourquoi ce coup-ci c'est pas passé, alors que ça fait des années et des années que Pokémon c'est à chaque fois le même jeu. C'est vraiment le fait qu'on puisse pas avoir tous ces Pokémon de sa collection, ou je sais pas, il a dû se passer un truc un petit peu inexplicable. Et entre parenthèses, je voulais mentionner aussi le fait que c'est marrant, les fans de Nintendo, parce que quand il y a un truc qui va pas, tout à coup on se souvient que c'est Game Freak qui fait le jeu, mais quand tout va bien, c'est Nintendo qu'on encense. Ils sont marrants, les fans de Nintendo, parce qu'ils sont tellement positifs sur tout. À propos de Nintendo, c'est vraiment uniquement des fanboys, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont juste contents tout le temps. Si vous avez besoin de joie, allez vous immerger dans une communauté de fanboys de Nintendo. Sauf là, évidemment, leur ire n'est pas dirigée contre Nintendo, mais contre Game Freak. Donc, bref, c'est marrant, mais peu importe.
Oui, et puis, moi, je trouve ça particulièrement injuste, parce qu'il faut bien comprendre que Pokémon, ce n'est évidemment pas que le jeu vidéo. Et Game Freak, qui, comme je l'expliquais, reste un petit studio. Hein. On n'est pas chez Ubi ou chez Acti. Il n'y a pas 400 personnes aux quatre coins du monde pour travailler sur les jeux. Je vous invite sur Twitter à suivre un tweet qui a été fait par Oscar Lemaire, qui est un peu le monsieur chiffre du jeu vidéo, et qui explique très bien ça. Il y a eu énormément d'embauches ces derniers mois chez Game Freak, justement, j'imagine, pour travailler sur ces jeux à HD. Mais Game Freak, c'est surtout un studio qui est soumis à la pression de Nintendo et de The Pokémon Company, qui est l'entité qui gère toute la licence Pokémon dans le monde, que ça soit pour Pokémon Go, pour Détective Pikachu, pour les t-shirts et les figurines, pour les Pokémon sur les verres de moutarde à Mora. C'est eux qui gèrent tout ça, et ça impose évidemment à Game Freak un rythme de sortie effréné, comme on le disait, parce que y a toutes les opérations commerciales qui vont avec. Et c'est très dommage de mettre la pression sur les développeurs ad hominem, de les insulter, etc.
Non, bien sûr, oui.
Voilà, évidemment, faut pas faire ça. Et s'il y a à s'interroger, c'est plutôt sur un modèle qui pousse évidemment à sortir régulièrement un Pokémon, un nouveau duo Pokémon pour mettre des sous dans la machine.
Mais pour c'est répondre, c'est vrai que je te laisse parler. Pardon, mais je regarde le calendrier de sortie. Je me rendais pas compte. C'est vraiment un par an, quoi. Alors, entre les sorties classiques et les sorties genre améliorées, genre Ultra Sun, Ultra Moon, oui. Omega, Alpha, Ruby, Sapphire, machin, tout ça, il y en a vraiment quasiment un par an. C'est impressionnant, je ne me rendais pas compte du tout.
Bien sûr. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure par rapport au succès et à la perception qu'on peut avoir de Pokémon, moi, la manière dont je l'explique vraiment, je pense encore une fois que la déception est vraiment liée au fait que pour la première fois, on trouve un Pokémon canonique sur une console de salon, la Switch, et que...
Donc les gens voulaient quelque chose de plus, quoi.
Voilà, la technique ne suit pas, le renouvellement ne suit pas. On a eu une communication, encore une fois, qui évoquait Breath of the Wild. Rappelons-nous quand même de ce qu'est Breath of the Wild pour le Zelda. C'est quand même une métamorphose de la formule totale, hein, quand on l'analyse vraiment, et qui a été une réussite phénoménale et qui a fait de ce Zelda un phare même pour les personnes de l'industrie. Là, du coup, c'est très déceptif quand on découvre ce Pokémon et que finalement, il n'est pas à la hauteur... à la hauteur de la console. Il y a aussi évidemment peut-être ce problème générationnel, même si encore une fois, eh bien, il faut quand même timorer tout ça, parce que on vient d'apprendre là que Pokémon faisait le troisième meilleur lancement en Grande-Bretagne, voilà, qui n'est pas d'habitude un public particulièrement acquis à Nintendo. D'ailleurs, on est plus amoureux de Nintendo en France, en Allemagne ou en Espagne, mais donc c'est le troisième meilleur lancement de l'année derrière FIFA 20 et Call of Duty. Et plus globalement, c'est aujourd'hui Pokémon épée bouclier, malgré les critiques un peu moins dithyrambiques que d'habitude, c'est le plus gros lancement sur Switch actuellement. Voilà.
Donc, ouais. Donc encore une fois, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit, mais l'ensemble du marché ne réagit pas forcément de la même manière. Bon, c'est donc un bon Pokémon classique, quoi. Un Pokémon classique correct.
Pour ceux qui ne seraient pas usés par les précédents, voilà, qui feraient une première expérience, c'est évidemment peut-être le plus confortable. Mais il faut bien avoir en tête que c'est quand même un univers très enfantin, avec des règles de JRPG très strictes et à l'ancienne. Si ça, c'est plutôt, on est adepte de ça, on peut y aller tranquillement. Par contre, si on a déjà beaucoup d'épisodes de Pokémon derrière nous, là, la redite est vraiment pénible quand même.
Ouais. Je te pose une dernière question pour conclure, oui, et puis on avance. Il y a quand même des différences, des nouveautés au niveau gameplay. Je me souviens qu'ils ont fait beaucoup la promo des gigas, machin, les monstres énormes. Ça joue un peu ou ça reste anecdotique, les nouveautés, les différences ?
Bah, c'est assez anecdotique parce que en fait on avait donc pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, une des nouveautés, donc c'est le Dynamax, pardon, qui est en fait un bracelet qui permet dans certaines zones du jeu de rendre géant son Pokémon. Et d'ailleurs aussi on aura l'occasion d'avoir des affrontements face à des Pokémon géants qu'on pourra capturer à plusieurs en ligne dans des zones dédiées. Moi j'aime bien les Kaiju, j'aime bien Godzilla, donc de voir un Pikachu de 8 mètres de haut, ça m'amuse, hein, c'est très rigolo. Mais évidemment c'est un détail, d'autant plus que il y a quelques générations de Pokémon, on avait eu le nom m'échappe, je crois que c'est l'Ultra Evolution, qui permettait déjà en fait de rendre son Pokémon beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus géant. Donc c'est une mécanique de jeu rigolote, mais ça ne réinvente pas la formule, ça c'est certain.
Ok, bon bah écoute, merci beaucoup pour ton avis, Julien. C'était absolument captivant, effectivement. Et on va continuer avec un autre jeu. C'est vraiment la période où il se passe un petit peu tout dans le monde du gaming. Un autre jeu qui était très attendu, c'est-à-dire Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, enfin, un jeu Star Wars sorti par EA qui a la licence depuis longtemps et qui n'en fait pas grand-chose, si ce n'est les Battlefront. Enfin, un jeu solo. sans microtransactions, sans multi, sans lootbox, sans rien. Développé en plus par Respawn Entertainment, qui est un développeur de qualité, qui pourrait remplir la promesse de la licence Star Wars en jeu vidéo après des années de disette. J'ai oublié de vous poser la question, est-ce que vous y avez joué, vous l'avez testé, vous, ou pas, J.K.?
Comme souvent, je te rapporte la même chose, je suis dessus actuellement, ouais.
D'accord.
J'ai commencé à y jouer et je trouve ça très très cool.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
T'as mis les mains dessus ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Je suis un grand fan de Star Wars et j'ai pu y jouer également.
Ah bah super, on a les trois avis. Alors moi, mon avis, en quelques mots, je vais faire beaucoup plus court que mon laïus sur Stadia. Pour moi, c'est un jeu qui est un jeu sympa, mais dont très peu de gens parleraient, dont personne ne parlerait vraiment, si ce n'était pas un jeu Star Wars. Et en entendant ça, certains pourraient se dire « Ah mais du coup, c'est un jeu pas bien, le succès est usurpé. » Pas du tout. Le fait que ça soit un jeu Star Wars et l'enrobage Star Wars est complètement un vrai plus légitime qui apporte un plaisir de jeu qui n'est pas du tout usurpé. Donc c'est un bon jeu, il y a des éléments sympas, il y a des choix qui ne sont pas des slam dunk, des réussites totales forcément, mais qui donnent un renouveau sympa à un jeu Star Wars qu'on n'avait pas forcément eu, cette mécanique Dark Souls Light ou plutôt Sekiro Light qui est sympa. Il y a des petits problèmes aussi, je trouve que le personnage est hyper, le personnage principal est hyper plat, la carte et l'exploration sont pas toujours idéaux, mais dans l'ensemble c'est un bon jeu. Et si vous aimez bien Star Wars, comme je crois il y a peu de gens qui détestent Star Wars activement, si vous aimez bien Star Wars, eh ben c'est sympa et c'est un plus, c'est un bon jeu Star Wars quoi. Et moi je prends beaucoup de plaisir à le faire et je continue à y jouer, là où Death Stranding dont je me disais ah bah ça a l'air pas mal, m'a paru plus rébarbatif plus vite, et là j'ai, même en revenant sur des planètes que j'avais déjà un petit peu explorées avec la frustration de se perdre dans des zones labyrinthiques, et ben je continue à vouloir aller plus loin, donc plutôt sympa. J.K., ça correspond à ton expérience?
Oui, pardon, j'avais mon micro coupé. Ouais, alors globalement oui, et effectivement c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on apprécie la licence, quand on aime Star Wars et quand on suit le truc, c'est un plaisir de jouer parce que tout simplement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon jeu solo Star Wars en fait. Et ça c'est vrai que ça manquait. En plus, ça, ce qui est plutôt intéressant, je trouve qu'il s'inscrit plutôt bien dans l'univers parce qu'il fait le lien entre, enfin en gros, ça se passe après l'épisode 3, donc ça raconte la purge des Jedi et la chasse des Jedi, donc c'est plutôt intéressant. Et je trouve que artistiquement, le jeu est pas magnifique, mais artistiquement, il y a vraiment des décors, des tableaux de fond, des images qui sont très très belles. Il y a un travail artistique, je trouve, pour représenter l'univers de Star Wars qui est très chouette. Et effectivement, ils ont récupéré tout ce qui marchait ces dernières années, un petit peu Dark Souls, un peu d'exploration à la Tomb Raider, à la Metroidvania. C'est presque un Metroidvania sur pas mal de points, etc., etc. Mais ça marche plutôt bien. C'est clairement pas sans défaut. Effectivement, je trouve la carte qui est vraiment illisible. Et c'est vrai que souvent tu tournes un peu en rond avant de comprendre où faut aller. Les caméras par moment, bon, elles partent un peu en sucette, etc. Mais c'est pas très grave parce que au-delà de ça, t'as vraiment un plaisir. T'as un plaisir de jeu assez simple en fait et satisfaisant de plonger dans un bon jeu de solo Star Wars et c'est déjà pas mal quoi pour un jeu Star Wars.
C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont plein de trucs qui fonctionnent, mais qu'ils n'ont pas poussé assez à fond. S'ils avaient eu un an de plus, peut-être que le jeu aurait été meilleur, encore que je ne sais pas si c'est le cœur de ces mécaniques qui sont problématiques, comme l'exploration, par exemple. Je la trouve pas hyper satisfaisante. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on revient là où on était et on a une nouvelle capacité qui nous permet d'accéder à une nouvelle zone. Et on se dit « Ah, c'est super cool, je vais pouvoir enfin explorer cette partie qui était bloquée. » C'est plutôt genre « Ah merde, bon bah c'est bloqué, ok, il va falloir que j'attende d'avoir la nouvelle capacité pour pouvoir y aller. » Ok, bon, pas de problème. Il n'y a pas d'exultation à aucun moment de ce genre de choses. Le combat, c'est sympa, il faut vraiment bloquer. Moi, au début, je faisais les roulades partout, ça ne marche pas du tout. Mais il faut vraiment bloquer et apprendre à parer, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça peut devenir sympathique quand on commence à avoir plusieurs puissances de Jedi, mais ce n'est pas non plus super jouissif, j'ai l'impression. Tout passe en moyen plus, c'est cool, c'est sympa. Julien, toi, tu disais que tu es un fan de Star Wars, est-ce que du coup, tu prends ton pied dans ce jeu-là ?
Bah, t'as bien résumé ce que je pense. C'est un jeu moyen plus, faute de mieux, faute de vrais jeux solo Star Wars. Ça fait plaisir. Moi, c'est un jeu que je recommanderais plutôt à prendre, par exemple, en solde. J'ai eu un premier a priori assez négatif dans le sens où je trouve l'intro du jeu vraiment très impressionnante. Visuellement, c'est très chouette. J'aime aussi le traitement graphique. Les personnages qui sont proposés, je trouve qu'ils m'évoquent plus la première trilogie. Je trouve que même il y en a certains qui sont un peu moches, qui ont des têtes de marionnettes un peu moches, et moi ça a plutôt tendance à me plaire. Mais je ne m'attendais pas en fait à un jeu d'exploration à la Tomb Raider, et sur ce côté-là je le trouve aussi un peu faible.
Comme ouais, vous l'avez expliqué. On est vraiment à je crois 40 à 50% du temps, c'est on marche et on cherche des nouvelles zones, quoi. C'est vraiment très très sur l'exploration.
On cherche des nouvelles zones, on cherche des coffre pour avoir des ponchos, donc à chaque fois ce qu'on va trouver c'est
c'est des ponchos ou des aspects pour votre sabre laser,
oui.
Et il y en a partout, et c'est, enfin il y a plein de trucs. À chaque fois que le petit robot rentre dans un de ces coffres, le personnage dit la même chose, et à chaque fois, ouais, il est surpris. C'est ce genre de petit polish qui manque, genre à chaque Exactement. Fois il a trois mots et c'est genre oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Et genre, au bout de la centième fois que le robot saute dans le coffre, tu dis, bah, c'est bon, t'as compris. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, mais pardon, je t'interromps.
Oui, puis comme vous l'avez dit, c'est un patchwork aussi de plein d'autres jeux. On peut évidemment citer Tomb Raider, aussi Sekiro, mais le problème, c'est
Uncharted,
évidemment. Mais le problème, c'est qu'il fait aussi les choses un peu moins bien que les autres. Par exemple, si on le compare à Sekiro, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment posé problème, c'est les sauts. Je trouve que vraiment, il y a une sensation qui est très désagréable avec les sauts. On se sent pas totalement libre de ce qu'on fait. Ça manque énormément de précision. Tu parlais aussi du caractère un peu lisse du personnage. Moi, ça m'a un peu moins dérangé. Je me rappelle d'un Luke Skywalker, simple fermier dans Un Nouvel Espoir, qui n'était pas forcément le personnage le plus intéressant, mais qui est ce personnage, voilà, du jeune un peu naïf. Moi, j'étais très content de l'utilisation du lore qui est né dans Star Wars Rebels, qui est donc une série en 4 saisons, une série d'animation qui est pour moi ce qui s'est fait de mieux sous l'ère Disney. On a vraiment une histoire qui de base se détache toujours des Skywalker, quoi, pour proposer un peu quelque chose de différent. Dans Star Wars Rebels, on a par exemple la découverte du peuple mandalorien, on voit leurs us, leurs coutumes, et puis par épisode, des fois, on voit apparaître Lando Calrissian ou la princesse Leia, mais toujours de manière bien amenée. Et j'étais content, par exemple, de trouver l'Inquisition, ces personnages qui ont été formés par Dark Vador pour aller dénicher les derniers Jedi survivants. Donc, pour le contexte, pour l'histoire, c'était plutôt pas mal. Et pour un petit détail, moi aussi, que j'ai trouvé un petit peu dommage, quelque chose que j'avais adoré dans Battlefront, c'est vraiment tout le travail de sound design. À travers les sons des blasters, les sons des sabres laser, où vraiment ça pétait, c'était presque même un peu too much, un peu saturé, mais ça mettait vraiment dans l'action. Et là, tu parlais de petits problèmes de polish, je trouve aussi qu'au niveau sonore, voilà, il aurait pu y avoir un peu plus de pêche pour encore être mieux dans cet univers. Mais globalement, comme on l'a dit aussi, voilà, faute de mieux, ça fait l'affaire, mais il faut, voilà, quand même garder en tête qu'on n'a pas un jeu Star Wars extraordinaire. Et puis aussi un petit détail, moi, qui m'a dérangé, mais là ça aurait induit une part de RPG aussi dans le jeu.
Je suis très agacé par ces jeux qui proposent de faux arbres de compétences. C'est-à-dire que finalement, quand tu
au
as
final,
les points nécessaires,
t'as tout atteint, quoi.
Voilà, t'as tout atteint et tu peux pas vraiment décider sur si ton personnage va attaquer à distance, va plutôt aller au corps à corps et tout. Donc bon, ça, j'en ai un peu soupé de genre de choses et je suis d'autant plus dur que quand on propose un jeu qui est un amalgame de plein d'autres, on espère quand même un petit peu de nouveauté ou en tout cas que les détails soient vraiment soignés. Et là, c'est pas totalement le cas, quoi.
Mmh. Ouais, sur l'arbre de talent, moi, ça m'a pas vraiment gêné parce qu'au contraire, je suis paralysé quand je sais que je vais pas pouvoir tout avoir et ça me frustre beaucoup. Donc là, je me dis bon bah, je choisis là, mais je suis rassuré. Et dans l'ensemble, c'est un jeu qui est vraiment pensé pour le grand public où tout doit être assez confortable. Et dans ce contexte, les combats sont pas hyper faciles, donc je trouve que ça, c'est presque, j'irais presque jusqu'à dire que c'est courageux de la part de Respawn et même de EA de faire un jeu que, franchement, vous allez mourir plein de fois. Bon, il y a différents niveaux de difficulté, mais vous allez mourir si vous jouez en difficulté normale et il faut vraiment apprendre à jouer. Donc, dans ce sens-là, c'est pas non plus une promenade de santé, quoi. Donc, bref, un jeu plutôt sympa, un bon jeu Star Wars qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est pas vraiment pas mauvais. Donc, pour moi, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce qui me plaise, quoi. On va passer un petit peu plus rapidement sur Modern Warfare et Luigi's Mansion 3. Modern Warfare, je vais juste mentionner que je l'ai fini et que je reste perplexe sur ce qu'essaye de faire le jeu. Il est très dérangeant par moments. Il y a des scènes où on est exposé à la violence de la guerre, mais de manière hyper crue et pas très habile. Il y a des, je vais citer une scène, il y a un moment où on prend une maison qui est la base de terroristes et qui ont leur famille dans cette maison, et on ouvre une pièce et on progresse dans la maison petit à petit, donc il y a plein de scènes comme ça. On ouvre une pièce et il y a une femme dans cette pièce qui prend un pistolet et qui veut nous tirer dessus, donc on lui tire dessus avant, on la tue. Et dans le lit d'à côté, il y avait son fils qui, du coup, voit sa mère morte par terre et qui avance vers elle et qui dit « Maman, maman !» Enfin, évidemment, c'est une scène qui est déchirante, mais le jeu la présente sans commentaire, sans contexte, sans... Et je ne sais pas si c'est une intention artistique pour dire, présenter l'horreur de ces combats tels qu'ils sont, et montrer, comme c'est de manière moins polissée que c'est souvent dans les jeux vidéo, où c'est juste ben, on tue plein de gens, mais voilà, c'est sans conséquence, ou si c'est juste qu'ils ont voulu faire un peu de buzz, ou si c'est pas réfléchi, je sais pas. J'arrive pas à comprendre l'intention qu'il y a derrière, et disons que l'historique de Modern Warfare et de ces jeux et de Activision me laisserait penser que c'est plutôt pas hyper réfléchi comme truc. Ils se sont dit, bon, on va le faire, ok, faisons-le, et voilà. Mais... je sais pas, disons que je me demande s'il n'y a pas une valeur artistique à décrire, à montrer les choses comme ça et à l'exposer aux joueurs sans plus de commentaires ou... je sais pas, ça me laisse perplexe et j'ai pas de conclusion toute faite sur ce... enfin, toute faite, conclusion finie sur cet aspect du jeu, mais...
Moi j'ai fait la campagne allemand et je trouve que c'est pas inintéressant comme démarche. C'est presque une démarche très documentaire, un peu froide. C'est pour presque montrer le côté très clinique de ces gens qui sont là pour investir une maison et
qui doivent se détacher menace, de la
qui doivent se détacher. Alors derrière, est-ce qu'ils te disent voilà, le joueur doit aussi se détacher, ou c'est compliqué. Et derrière, t'as aussi des scènes assez compliquées où tu incarnes une jeune enfant qui doit se sauver d'un attentat, etc.
Son propos, qui est intéressant au départ, elle est très vite jeu vidéoifiée avec ce moment que tu dois affronter. Ouais. Et du coup, ça perd de sa force, je trouve.
C'est tout le problème du jeu, c'est que c'est plein de scènes choc qui pourraient donner lieu à des réflexions intéressantes. Et finalement, assez rapidement, tu comprends, enfin, on a l'impression que Respawn doit se dire bon, bah, c'est un jeu vidéo, de toute façon, il faut qu'on conclue. C'est une campagne solo qui se finit en 6 heures et que. Donc, ils essaient de mettre plein de trucs.
Infinity War,
c'est pas Spec of the Line qui a une vraie réflexion sur la guerre et sur surtout les conséquences psychologiques de ses actes, etc. Donc, je trouve la démarche d'Infinity War plutôt intéressante malgré tout, mais effectivement, soit ils sont pas allés assez loin, soit ils sont allés trop loin. Enfin, on sait pas trop où ils veulent venir. Mais par contre, au-delà de ça, le multi du jeu est très très bon. Ce qui fait que pour moi, c'est un des meilleurs épisodes depuis un moment Modern Warfare, parce que je joue encore au multi et je le trouve vraiment super bon, le multi, très agréable à jouer, très plein de modes très cool. Donc la campagne solo, je l'ai trouvé plus globalement plutôt réussi. Malgré tout, et il y a un super multi, donc ça reste pour moi un jeu réussi, quoi.
Un bon Call of Duty. Un autre jeu dont on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir, avec des scènes choc un petit peu controversées, c'est Luigi's Mansion 3, évidemment. Affronter la mort, comment évoluer dans le symbole de la grande maison dont on passe à tous les étages, etc. JK, quelles sont tes impressions sur cette métaphore de la vie et de la mort?
Ah bah c'est du Kubrick, hein, c'est vraiment magnifique. Non mais plaisanterie mise à part, c'est vraiment une très bonne surprise, ce jeu, parce que autant dire que moi, bon, j'aimais bien Luigi's Mansion, mais ça restait un peu la licence un peu secondaire de Nintendo, de seconde zone, tu vois. Bon, et là c'est un jeu qui est hyper riche, qui, je trouve, a une direction artistique très chouette, avec plein d'idées de mise en scène. En fait, chaque étage de l'hôtel est un niveau différent, avec une identité artistique différente, en gros, et à chaque fois des idées de mise en scène, des références au cinéma vraiment par moments très pointues, une bande son qui est super bonne, voilà, un humour très voilà, très très rigolo, très bon enfant, mais qui marche bien. Enfin, vraiment, il y a une espèce d'alchimie dans ce jeu, en fait, qui fait que c'est très très clairement, je pense que c'est le meilleur épisode de la série, une série qui, par ailleurs, n'a jamais été au top, tu vois, mais là, justement, avec cet épisode, je trouve qu'ils sont montés d'un cran. Et
c'est un jeu de puzzle, Luigi's Mansion. Moi, j'y ai jamais joué, je sais même pas ce que c'est.
Oui, c'est un mélange entre un jeu d'exploration à la, vraiment, ça, c'est vrai qu'il y a des moments très, en fait, vraiment, ça rappelle un peu le premier Resident Evil par moment, où c'est vraiment effectivement beaucoup d'exploration, beaucoup d'observations, bouger des mécanismes, trouver la bonne clé pour avancer, et très régulièrement des rencontres avec des fantômes où là c'est des scènes d'action qui se ressemblent un petit peu, parce que c'est un peu toujours le même gameplay, quoi, c'est-à-dire aveugler le fantôme, l'aspirer, puis le jeter dans tous les sens pour lui faire part de sa vie, et ça se répète pas mal, sauf qu'ils arrivent à trouver régulièrement des nouveaux types de fantômes qui fait que ça twiste un peu la mécanique. Tu dois réfléchir à comment le vaincre. Donc voilà, c'est un mélange de combat comme ça, un peu rigolo, et surtout beau. Et c'est vrai que c'est beaucoup un jeu d'exploration. Donc ça, vraiment, en fait, c'est un jeu d'ambiance, hein, vraiment. Ça, en fait, ça. Il ne faudrait pas grand-chose pour que ce soit un vrai jeu d'horreur, en fait. Dans le sens où tu remplaces Luigi par un personnage lambda qui cherche sa femme morte, qui lui a envoyé une lettre, tu vois, façon Silent Hill, avec, et tu remplaces les fantômes par des trucs vraiment flippants. Ils peuvent faire un vrai jeu. Je pense qu'ils ont matière à faire un très bon jeu d'horreur. C'est juste que, évidemment, ce n'est pas la tonalité adoptée, mais c'est voilà.
Très intéressant. Bon, bah écoute, Luigi's Mansion, encore un jeu à ne pas rater, décidément. C'est marrant parce que cette année, on en parlera au moment de l'épisode des jeux de l'année, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment énormément de jeux qui sont super éclatants, encore qu'on pourrait parler de Outer Wilds pour certains, ou même Disco Elysium pour certains autres, mais il n'y a pas de jeu qui soit genre le gros truc que tout le monde adore, mais il y a plein de jeux qui sont juste bons, voire très bons. Mais bon, on en parlera un peu plus en fin d'année de tout ça. Merci pour vos impressions sur tous ces jeux. On va continuer, on va parler de XO19 et les annonces de Microsoft. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire un petit mot sur le Patreon. Et pour ce passage, je vais aussi vous lire un mot de Ezri qui a dit sur Apple Podcast, qui a laissé un commentaire pour dire « Un podcast français sur le gaming de qualité ». Découvert il y a 2 mois, je suis tombé sous le charme. Pour moi, c'est peut-être le meilleur podcast français sur le gaming. Il dit peut-être, hein, mais je prends quand même le compliment. On attend chaque épisode avec impatience. Merci beaucoup pour ton travail, Patrick. Merci à toi, Ezri. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur iTunes ou ailleurs, ou qui choisissent de soutenir carrément financièrement l'émission. Si vous pensez que l'émission est sympathique, si vous attendez chaque épisode avec impatience comme Ezri, eh ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission et avoir accès à des bonus fort sympathiques, comme par exemple le fait d'avoir l'émission sans cette promo pour Patreon, donc sans promo, un flux complètement pur. Vous pouvez avoir accès aux contenus exclusifs qui sont postés sur Patreon. Vous pouvez avoir accès, si vous choisissez différents niveaux, à la communauté Slack des auditeurs du rendez-vous jeu. Il y a plein de bonus sympas. Et en plus de ça, vous contribuez au Patreon qui nous amène à terme à des bonus, des épisodes bonus. Et le but ultime, c'est de passer l'émission en hebdomadaire. Et je pense qu'il va y avoir matière à parler chaque semaine dans les mois et les années à venir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et j'aimerais beaucoup faire l'émission en hebdo. Donc, si vous appréciez, si vous en voulez plus, allez sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. C'est super simple et ça marche très, très bien. Alors, on continue avec XO19, la conférence ou le stream live, la fête pour les joueurs de Microsoft et de Xbox. Il y a eu... alors, généralement, je suis hyper déçu par ces Xbox Insider qui sont des trucs hyper américains, j'en parle à chaque fois. Hein. C'est la grande fête, tout le monde crie, tout le monde applaudit, c'est un petit peu ridicule. Et là, pour le coup, ça a été un Xbox Insider qui est le premier qui est vraiment, vraiment réussi. Beaucoup d'annonces, pas de trucs invraisemblables, mais quand même des trucs assez forts. Beaucoup de jeux, et puis des annonces qui sont plus importantes encore pour la Xbox, l'écosystème et l'industrie. Des jeux qu'on n'attendait pas, qui ne sont pas des jeux énormes, mais qui pourraient être sympas. Un nouveau jeu d'Obsidian qui s'appelle Grounded, qui est un truc de survie en coopératif à 4. C'est un petit peu Fortnite version classique, pas Save the World et pas Battle Royale. Un nouveau jeu de Rare dont on ne sait pas grand-chose, mais qui a l'air super beau, qui s'appelle Everwild. Wasteland 3 qui sort en mai 2020. Une update sur Bleeding Edge, le jeu de Ninja Theory, le nouveau jeu de Dontnod qui s'appelle Tell Me Why, je crois, qui a le premier personnage trans de l'histoire du jeu vidéo, si je ne m'abuse, ou en tout cas dans un jeu majeur. Il y a une update sur Flight Simulator avec la possibilité de piloter un Boeing 747, ce qui va être marrant quand je l'essayerai parce qu'il est inclus dans le Game Pass. Donc je verrai ce que ça donne et je vais me crasher de manière dramatique. Un trailer pour Age of Empires 4 qui a fait sans doute plaisir à beaucoup beaucoup de monde et la sortie du remaster du 2. Halo Reach qui arrive dans The Master Chief Collection et qui arrive sur PC également en décembre. Et puis, grosse annonce, l'arrivée de 3 Yakuza, les 3 premiers, les autres qui vont arriver après, et de plein de Final Fantasy dans le Xbox Game Pass. Et une update sur xCloud, on revient au streaming, hein, vous allez en bouffer du streaming ces prochains mois. Le Xbox Game Pass qui va arriver sur PC et être étendu à plusieurs pays, dont la France et l'Europe, en 2020, qui ajoute le support de nombreuses manettes comme le DualShock 4, et c'est-à-dire la manette PS4, et le fait que les jeux qui sont disponibles sur xCloud, il y en a une cinquantaine qui vont être ajoutés là, seront également streamables si vous avez aussi le Xbox Game Pass. Alors, on ne sait pas si ça veut dire que le xCloud sera inclus dans le Xbox Game Pass, c'est possible, mais leur phrasé était un petit peu pas super clair, contrairement à ce que je pensais à l'origine. Mais ce qui est sûr, c'est que donc on va avoir cette option dont on parlait tout à l'heure, avec Xbox et Microsoft, le fait de pouvoir choisir si on installe ou on stream les jeux qui sont disponibles sur les services. Et c'est très très fort pour le combat qui s'annonce, et on en saura plus bien sûr avec l'annonce des nouvelles consoles, sans doute autour de l'E3 l'année prochaine. Mais bon, ça fait beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'annonces de jeux. Je redonne la parole à Julien qui est resté gentiment et poliment silencieux. Il y a des choses que tu retiens de toutes ces annonces? Il y avait beaucoup de choses quand même.
Ouais, je suis très content de voir la série Yakuza être accessible aux joueurs Xbox. C'est une série que j'aime particulièrement, et je trouve que on parle souvent ces derniers temps de remasterisation, de remake qui parfois peuvent être un peu décevants, et ce qui a été fait par exemple avec un jeu comme Yakuza 0 ou Yakuza Kiwami, qui reprenait en fait le jeu original sorti sur PS2 avec des graphismes actuels et tout, je trouve que c'est un exemple de remake. Donc je suis très content qu'on puisse jouer à ça. Et moi, vraiment, le jeu qui m'a encore une fois époustouflé, c'est Flight Simulator. En plus, c'est cool de savoir que c'est Asobo, un studio français, qui s'occupe de cette vénérable licence Microsoft. Et je parlais tout à l'heure un petit peu de ma réticence sur le streaming, le jeu dématérialisé. si je peux avoir les sensations d'un pilote de Boeing 747 grâce au xCloud, moi je signe tout de suite, parce que ce qui a été présenté, ça me semble complètement hallucinant. Et voilà, je veux l'essayer en VR. Je veux absolument passer des heures à faire des Paris Los Angeles. Ça va être ma nouvelle passion, je le sens.
Tu veux dire que ce jeu est un jeu que tu pourrais imaginer ne pas installer et juste le jouer en streaming si ça fonctionne correctement, c'est ça?
Parce que j'imagine surtout que pour le faire tourner, on va avoir besoin d'un PC de la NASA, ce qui n'est, pas, ce qui n'est pas mon cas. Donc, toutes les offres susceptibles de pallier ça seront à ce moment-là les bienvenues. Du coup.
Et puis surtout, ça va utiliser le cloud d'Azure en fait, pour les calculs et pour afficher les cartes en temps réel, parce qu'en fait, ça se base sur la topographie réelle et ça utilise à la fois Bing Maps, donc leur service de cartographie, et les serveurs Azure en fait, pour générer la map qui est en fait la Terre. En fait leur ambition, c'est d'avoir la Terre entière à l'échelle 1. Et c'est une ambition complètement folle, mais c'est crédible par rapport à avec les technologies actuelles. Donc aujourd'hui, là pour le coup, le cloud a un intérêt vraiment énorme sur ce genre de jeu.
Il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement, JK, toi, dans toutes ces annonces?
Pareil, hein, je rejoins un peu Julien sur Flight Simulator, alors que moi, c'est vrai que c'est plus du tout mon genre de jeu. Enfin, je m'y intéressais quand j'ai commencé à jouer sur PC quand j'avais 12 ans, tu vois.
Pareil. Ouais.
Et là, de revoir ça et de voir la beauté du truc. Et la dernière fois, il y a une vidéo de 15 minutes qui est passée avec 15 minutes de gameplay en 4K avec le survol de ville. Et j'ai regardé ça, tu sais, j'étais hypnotisé, tu vois. Et je m'imaginais vraiment faire mon petit vol tranquille. À admirer le ciel et les paysages. Enfin, vraiment, je trouve ça très cool. Après, j'espère que, alors, je sais pas quel sera le niveau de réalisme. J'espère que le jeu sera ultra réaliste pour les fans de Simu, mais j'espère aussi qu'il y aura des aides au pilotage, etc., pour que les gens comme moi, par exemple, qui sont complètement casus sur les simulations, puissent quand même prendre du plaisir. J'ose espérer que ce sera le cas. Après, on verra quoi.
Je pense que ça sera le cas, parce que effectivement, faire décoller un 747, je peux vous garantir que, et même un petit avion, hein. On se rend pas compte, et c'est ça l'intérêt de ces simulations aussi, c'est que même faire décoller un petit appareil, c'est pas facile du tout. Et atterrir, j'en parle même pas. Mes expériences d'il y a des années sur ces simulateurs, c'est plutôt des accidents au décollage et à l'atterrissage qu'autre chose.
Oui, c'est ça. À la limite, je serais même pas contre un mode entre guillemets arcade où
bien sûr,
tu prends ta manette et c'est très facile à piloter.
Je suis sûr qu'il y aura.
Ce serait bien, ouais, j'espère. Par contre, a priori, pas de VR annoncé pour le moment. Je ne sais pas si c'est quelles sont les raisons, mais c'est vrai que ça a tout son sens en VR. Et moi, j'avoue que, pareil, c'est un peu comme Flight Simulator, c'est le retour de vieille licence que j'avais lâchée. Age of Empires 4, quand j'ai vu le trailer, j'ai eu un petit frisson de nostalgie. Puis surtout, c'est tellement mignon, quoi. Enfin, t'as envie de prendre la souris et de construire des huttes à nouveau, quoi. Donc ça, je suis plutôt content de voir le jeu. Enfin, je pense que j'y rejouerai avec plaisir, alors que j'ai pas touché un jeu de stratégie en temps réel depuis bien longtemps. Et d'une manière générale, la stratégie de Microsoft, elle est quand même assez intéressante. Enfin, effectivement, le Game Pass avec la cohérence avec xCloud, les promesses avec xCloud, l'arrivée de pas mal de licences japonaises, enfin Final Fantasy, Yakuza, mine de rien, c'est quand même pas rien.
Pour Microsoft, ça pèse, ouais.
Qui met en avant plutôt en général des jeux occidentaux, des jeux américains. Après, il y a clairement pas un seul jeu, qui m'a complètement bluffé. Même clairement, moi, je suis quand même assez déçu par l'Obsidian. Enfin, je m'attendais pas trop à ce qu'il fasse ça. Un jeu de survie de craft dans un style un peu cartoon, c'est pas vraiment ce que j'attends d'Obsidian. Donc bon, à voir, en espérant qu'ils aient des projets un peu plus dans leur ADN, on va dire, dans les bientôt.
C'est la première chose qu'ils ont dit en sortant de la présentation vidéo, c'était « On a plusieurs studios chez Obsidian, ne vous inquiétez pas ».
Voilà, ouais. Mais, c'est un peu comme Ninja Theory qui fait un brawler là, qui a l'air vraiment pas terrible, quoi. On se doute qu'à côté, ils ont des projets beaucoup plus artistiques, personnels. J'ai un trou de mémoire, excuse-moi, sur le jeu, là, leur jeu qu'ils ont fait… Ninja Theory, leur dernier jeu, c'est... Bon, bref, je sais plus sur cette femme qui est sur la folie. Enfin, bref, à chaque fois, j'oublie en plus.
Mais oui, c'est terrible. Bon, je l'ai sur le bout de la langue. Attends, Hellblade.
Hellblade, voilà, Hellblade.
Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression que c'est Microsoft qui est arrivé dans les studios qu'ils ont achetés, parce que tout cela, c'est des studios qu'ils ont achetés. Et ils ont dit, bon, alors, qu'est-ce que vous avez sur le feu, là, tout de suite? Il faut qu'on sorte l'année prochaine, là. Allez, allez, on y va, voilà, on y va.
Ça, c'est des petits projets,
et
quoi.
C'est ça. Et c'est des trucs qui vont sortir maintenant, des trucs exclusifs pour étoffer leur catalogue. Et après, il y aura évidemment d'autres projets beaucoup plus importants qui arriveront sur la prochaine console, je suis sûr, et sur lesquels ils sont aussi en train de travailler. Ça, il y a très peu de doutes sur ce point, mais...
En tout cas, sur la forme de la conférence, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme et j'espère qu'à l'E3, on aura quelque chose de ce genre-là parce que en termes de présentation, j'ai trouvé ça très réussi par contre.
Ouais, bah on a toujours l'ambiance très américaine, mais ils avaient des choses à montrer, quoi. C'est pour ça.
Absolument.
Donc, ouais, et moi, je conclurais sur effectivement xCloud qui continue à se développer et qui va offrir. Alors, autant on peut avoir des doutes sur Stadia, autant, surtout s'ils incluent xCloud dans le Game Pass ou s'il y a une formule équivalente avec, avec le truc inclus, même si elle est un petit peu plus chère. C'est le meilleur de tous les mondes. Et comme on disait tout à l'heure, Microsoft est tellement bien positionné sur cet aspect. Après, la question qui reste, c'est quels jeux seront disponibles. Et c'est là que Sony, surtout, a une carte à jouer et à voir comment ils vont gérer les multiples éléments, console elle-même, qui sera très équivalent à la prochaine console de Microsoft, et surtout, disponibilité des jeux récents sur leur formule à abonnement, qu'elle soit en streaming ou pas. Et là, il va y avoir une vraie question qui va se poser pour le combat, entre guillemets, entre Microsoft et Sony et les autres nouveaux entrants, sachant que ensuite les leviers sont faciles à pousser si les choses se passent pas parfaitement bien. Je pense que Sony commencera en disant bah nous on a nos jeux avec nos exclusifs sur notre console et sur notre service de streaming si vous les achetez, et s'ils voient qu'ils sont en train de se faire dépasser en deux minutes, ils peuvent dire bon bah à partir de maintenant tous nos jeux exclusifs sont disponibles pour tout le monde sur notre formule d'abonnement, et ça c'est très facile à faire, donc ils vont pas commencer comme ça, je crois. Bon, bah voilà pour les gros sujets. Ça faisait un gros morceau. On va conclure avec quelques petites news sur lesquelles on va passer plus rapidement. D'abord, du côté streaming. Allez, le test de stream de Steam. C'est compliqué, tous ces Steam. Le Remote Play Together, normalement, ça lance accessible pour tout le monde aujourd'hui. Donc, ça arrive, c'est-à-dire que vous pouvez jouer aux jeux multi avec des gens qui sont loin de chez vous grâce au stream. Bon, il faut que vous ayez une connexion qui convient, évidemment. Et vous n'avez pas forcément les serveurs de Google, donc la qualité n'est pas garantie, mais le streaming, décidément, est partout. Plus important, ce soir, Valve va dévoiler Half-Life Alyx.
Le prononcer.
Un jeu de réalité virtuelle qui est a priori un gros jeu must-buy killer app pour la réalité virtuelle. Alors c'est aujourd'hui, vous saurez déjà de quoi il s'agit, on l'imagine, en écoutant cette émission. Et pour toujours dans la VR, le Oculus Link de Facebook, donc pour utiliser son Oculus Quest en connexion à son PC avec un câble USB, est également disponible. Et moi, je suis bien nu parce que j'ai acheté mon Oculus Quest en disant bah super, ça va me permettre d'en l'utiliser comme Oculus Rift facilement quand ça sera disponible. Et ben j'ai une très vieille entre guillemets GTX 970 et ça fonctionne pas avec ces vieilles cartes graphiques, donc je suis bien eu, je suis très frustré. Ça veut dire que il va falloir que j'achète une RTX 2080, quoi. C'est ça, en fait, la seule solution possible.
Au minimum, ouais.
Au minimum. Mais je me dis, il va peut-être falloir que je pense à un moment à changer de carte graphique. Mais le truc qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'elle rentre pas dans mon boîtier. Et accessoirement que ça coûte 500 boules. Donc, souscrivez au Patreon parce que moi je reçois pas les jeux gratuitement et le matériel. Moi je suis pas comme ces bourgeois là avec qui je parle qui reçoivent les jeux gratuitement de toutes les trucs. Moi j'ai pas de relation avec les équipes PR, donc je reçois rien. Donc Patreon, merci.
C'est un ancien pire qui dit ça en plus, attention.
Mais ouais. Bon, à part Blizzard, j'ai des potes là.
Ouais, voilà.
Non, mais d'ailleurs, même chez Blizzard, je paye mes jeux. Hein. C'est un truc que les gens savent peut-être pas, mais je me suis fait un devoir de payer tout, même ces trucs-là. Donc, bref, peu importe. Sur tous ces trucs, Steam Remote, Half-Life Alyx, etc. J'imagine que c'est Half-Life Alyx sur lequel on attend le plus. Mais on en saura plus quand les gens qui écouteront en sauront déjà, j'imagine. Mais vous attendez quoi de ça, Julien, peut-être, ou enfin. Vous pouvez y aller tous les deux.
Ouais, je suis curieux à propos de Half-Life, sans grand enthousiasme non plus. Une expérience VR, j'attends de voir. Peut-être que justement, on va avoir enfin peut-être la killer app, le jeu qui rendra la VR indispensable. Voilà, sans plus d'enthousiasme, j'attends avec curiosité de voir ce qui est proposé, quoi.
Je crois qu'on est arrivé à une étape où la VR est dans une bonne situation matérielle et logicielle, ça fonctionne maintenant, et il manque une app, non pas qui va pousser tous les joueurs du monde à acheter des casques de réalité virtuelle, mais une app ou un jeu qui va donner envie au moins à tout le monde. Mmh. Et je me demande si ça va être ça, Half-Life Alyx, mais en même temps... Je m'attends à être déçu. Donc, JK, t'aimes beaucoup la VR. Enfin, tu connais bien la VR, toi ?
Ouais, je suis partagé parce qu'en même temps, je suis la VR et Half-Life, c'est partie de mon top 3 de mes jeux préférés. Enfin, Half-Life 1, Half-Life 2. Mais j'ai perdu tout espoir, en fait. J'ai plus trop d'espoir sur Valve et les jeux solo, en tout cas pour le moment. Donc, clairement, on verra. On ne sait pas à quoi ressemble le jeu. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit un très gros jeu. Ce sera clairement pas Half-Life 3 en VR, faut pas rêver. Peut-être que je me trompe, hein, mais bizarrement, je devrais être excité comme un dingue, quoi. C'est Half-Life, c'est de la VR. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai peut-être envie de jouer à un jeu Half-Life aussi normal, sans casque. J'aimerais bien avoir le choix. Donc je sais pas si ce Half-Life Alyx sera un jeu VR, mais je pense pas qu'il soit jouable hors VR. Donc bon, faut voir.
C'est VR, hein, c'est certain. Donc.
Ouais, bon, et peut-être que quand j'aurais vu la presse, j'aurais complètement changé d'avis et que je serais comme un dingue, mais j'arrive bizarrement pas à m'emballer, quoi.
J'ai noté que dans ta phrase tout à l'heure, tu as dit dans mon top 3, il y a Half-Life 1 et 2. Donc tu as mis 3 et non. Half-Life enfin, dans la même phrase. Donc
c'est foutu.
Ça veut dire quelque chose.
En plus, c'est pas vrai. C'est Half-Life 1 qui fait partie de mon top 3. Le 2 n'est pas dans mon top 3.
C'est vrai ?
Perso. Non. J'adore le 2, mais j'ai, ouais. J'ai d'autres jeux que je préfère que Half-Life 2.
Je comprends. On verra dans quelques heures à peine. Pour les news rapides maintenant, Minecraft Earth arrive en France, en tout cas la bêta ou l'accès anticipé de Minecraft Earth. Donc si vous voulez vous balader dans la rue et taper sur des petits blocs de terre et de pierre, allez-y. Path of Exile a fait sa ExileCon, la conférence, et ils ont annoncé beaucoup de choses. Une suite à Path of Exile, donc Path of Exile 2, une extension et une version mobile. Décidément, c'est dans l'air du temps, les Diablo-like sur mobile. Étrangement, comme eux, ils ont annoncé des suites en même temps, ils ne sont pas fait incendier, mais le jeu a l'air pas mal. Enfin, ils ont tous l'air très bien. Shenmue 3 sort le 21... Ah oui, Shenmue 3, attendez, qu'est-ce que je raconte ?
Le
19 novembre, mais attendez, Shenmue 3 est sorti ?
Oui, tout à
mais
fait.
Mais il est passé complètement inaperçu.
Oui, et cette histoire d'embargo, en fait, ça a été rectifié. Je crois que c'était que pour les US. Enfin,
d'accord.
En gros, tous les tests sont tombés. Hein. GameCult l'a testé, jeuxvideo.com, pareil, Gameblog aussi. Okay.
Bon, et à vrai dire, oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. J'ai vu les tests et il est...
Il est sorti, oui.
les gens qui...
Version achetée dans le commerce.
Oui.
Sachant que les backers ont reçu la version après.
Oui, bon, ça, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Bah, c'est Shenmue, quoi. Et les gens qui attendaient Shenmue, visiblement, ne sont pas déçus. Mais je pense que, voilà.
Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ah, ouais.
En fait, les notes sont très, très, très disparates. Je sais que chez Gameblog, c'est Romain Mahut, donc il a testé, oui. Qui est un énorme fan, d'après ce que je sais. Hein, il a mis 7 sur 10, donc c'est son jeu de cœur. Chez nous, pareil, celui qui l'a testé, c'est un... De toute façon, les gens qui ont testé Shenmue 3 ne peuvent qu'être des fans de
Shenmue
3.
Ah bah oui.
Je vois pas. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, le chez nous, celui qui l'a testé chez jeuxvideo.com, il a passé un très mauvais moment. je sais que voilà, la note a été longuement discutée. Il a eu 10 sur 20 et je pense que c'est le maximum qu'on estimait pouvoir lui mettre, quoi. Ce qui n'est pas une bonne note. Hein.
On est d'accord. Voilà. Bon, Street Fighter V va bénéficier d'une édition champion, Champion Edition. En fait, c'est l'édition qui réunit tous les personnages qui sont sortis sur Street Fighter V, qui existe maintenant depuis quoi ? Ça fait 3 ans, presque 4 bientôt. C'est Street Fighter V, on sent qu'on arrive à la fin et je ne serais pas surpris de voir une annonce pour Street Fighter VI dans pas trop longtemps. Mais du coup, c'est une version qui est à 30€, qui réunit 40 personnages. Bon, ça reste un excellent jeu et c'est l'un des jeux, je me rends compte en fait, il y a plein de jeux auxquels j'aimerais jouer plus, et parmi ces jeux il y a Street Fighter et Tekken, et Street Fighter 5 et Tekken 7, j'ai les deux et ils sont toujours très populaires. J'aimerais passer plus de temps dessus, peut-être qu'il faudrait que je me fasse du temps pour ça, mais bon, après le temps c'est toujours le problème. Mais bref, Street Fighter 5 Champion Edition, vous pouvez d'ailleurs l'acheter si vous avez un Street Fighter 5 aujourd'hui pour un prix un tout petit peu réduit, genre 25€, et ça vous donne tous les personnages que vous n'avez pas, et vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Ça, Darksiders Genesis arrive en décembre, ça a l'air d'être un jeu plutôt sympathique, on a encore des previews, et il arrivera aussi sur Stadia. Ouais, plus important que ça encore, on a des rumeurs chez Kotaku selon lesquelles, c'est Jason Trier d'ailleurs le très bien informé, selon lesquelles Anthem serait en cours de refonte totale, ce qui répond à une question qu'on se posait la dernière fois dans le dernier épisode suite au départ de certains pontes de BioWare. Et c'est une super bonne nouvelle parce qu'ils seraient donc en train de travailler silencieusement et assiduit sur le jeu, et il s'apprêterait à faire une annonce quand il sera prêt, peut-être à l'E3 ou dans l'année prochaine. Et c'est super parce que le cœur de Anthem, enfin la mécanique de vol et tout ça, était tellement satisfaisante et on voulait tous que ça soit qu'il y ait un bon jeu autour. Et visiblement, ils n'ont pas jeté l'éponge, ils continuent à travailler dessus, et donc c'est une très bonne nouvelle. Moi, je pense que s'ils ressortent une version d'Anthem qui sera revue et pour le coup qui sera au moins bonne, je lui redonnerai complètement sa chance parce qu'il y avait tellement de fantasmes réalisés dans certaines parties du jeu que c'est quelque chose que je continue à vouloir. Donc bon, bonne nouvelle de ce côté-là. Et enfin, on a les images de brevets pour le contrôleur, la manette de la PS5, qui montrent très peu de différence avec celle de la PS4. Donc, il y a quelques petits éléments différents, mais qu'on essaye de deviner. Il semblerait qu'il y ait toujours un touchscreen, et puis un trou pour le micro, et puis des petits trucs différents. Mais bon, voilà, bref, c'est juste pour le mentionner. Il n'y a pas grand-chose de sûr qu'on peut connaître de cette... de ces brevets, si ce n'est qu'on aura un port USB-C, donc enfin port USB-C chez tout le monde partout. Mais ça veut peut-être dire que les manettes PlayStation 4 seront compatibles avec la manette PlayStation 5, c'est possible. Sur tous ces derniers petits sujets, un truc qui vous évoque quelque chose, Path of Exile, Street Fighter, Anthem, ou on conclut
bah. Moi, juste que l'annonce de Path of Exile 2 m'a donné envie de me mettre à Path of Exile 1 parce que j'en ai tellement entendu parler de ce jeu et en bien, hein, la plupart des gens disent c'est un Diablo free to play qui vaut largement Diablo 3. Et en plus là, le 2, j'ai trouvé ça super joli. Donc ça va être une l'année prochaine. Je sais pas quand sort Diablo 4, hein, mais l'année prochaine, ça va, je pense, plutôt en termes de hack and slash, ça risque d'être pas mal, quoi.
Ouais, Diablo 4, ça sera pas l'année prochaine.
Ouais, non. Ouais, mais bon, en tout cas, les années à venir. Allez, laisse-moi rêver, ouais. S'il te plaît.
Julien, un truc à noter ou c'est terminé ?
Bah, un petit mot sur Shenmue 3. Moi aussi, je fais partie des grands fans. Je pense que Shenmue, c'est peut-être mon jeu vidéo préféré. Ouais, et tu parlais tout à l'heure de communication désastreuse autour de Stadia. Un petit mot sur la communication peut-être de Shenmue 3 avec ses vidéos. On avait l'impression que Yu Suzuki était pris en otage et filmé avec une caméra DV pour les différentes vidéos qui
annonçaient. Nous sommes le 14 août 2018.
Exactement. Exactement. Mais malgré tout, et je comprends, hein, toutes les notes qui ont pu être assez médiocres concernant ce Shenmue 3, mais moi je dois avouer que je fais partie de ces joueurs qui ont retrouver l'essence de la série dans ce nouveau jeu malgré tous ces problèmes techniques. Et pour moi, c'est le plus important. Alors évidemment, là, on n'est plus face à un triple A, mais la magie de Shenmue à l'époque, c'est que c'était un triple A qui prenait son temps, qui était dans la contemplation. On retrouve cette sensation dans Shenmue 3. On trouve aussi... quand on est passionné d'Asie, de Chine, de Japon, d'arts martiaux, on retrouve toute cette ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, je faisais partie de ces fans qui, juste un texto, hein, pour avoir la fin de l'histoire, ça aurait suffi. Donc, qu'on ait un jeu vidéo pour avancer dans l'histoire, j'en suis vraiment ravi. Je ne sais pas si je serais aussi enthousiaste s'il y a un Shenmue 4, parce que je pense qu'il est temps quand même que ça s'arrête. À ce que j'ai compris, l'histoire de Shenmue ne se termine pas avec Shenmue 3. Bon, bah voilà, c'est comme ça.
Non, mais il refera voilà. Un Kickstarter dans 10 ans, ça passera bien.
Ouais, mais voilà, et puis histoire aussi un petit peu de rendre hommage à Yu Suzuki quand même, qui est un immense monsieur du jeu vidéo et qui, je trouve, en particulier par rapport à cette communication qui a été très ratée autour de Shenmue 3, n'est pas souvent présenté sous son meilleur jour ou mise en valeur. Mais voilà, malgré tous ces défauts, pour ceux qui seraient un peu hésitants, si vous avez essayé le remaster qui est très bon de Shenmue 1 et 2 et que ça a été un grand souvenir pour vous, vous pouvez évidemment y aller dans Shenmue 3. Ça s'adresse évidemment pas à tout le monde, mais je pense que le plus important, c'est que ça s'adresse au public qui était en attente depuis des années maintenant.
Très bien. Bon, écoute, j'espère que ceux-là t'auront entendu. À vrai dire, je pense que ceux-là ont déjà acheté le jeu. Parce que s'il y a un truc qui a été attendu.
Ils ont reçu leur fourreau à 100€ exclusif de la version Kickstarter. Quel bonheur.
Au moins, eux, ils reçoivent les trucs, contrairement à ceux qui achètent des choses à Google, tu vois.
Donc, moi, je peux me moquer, hein, j'en fais partie. Donc,
et tu l'as reçu?
Oui, tout à fait.
Ouais. Très bien.
On attendra pour les bonus supplémentaires. On espère qu'ils arriveront un jour.
On peut comprendre la structure de Yu Suzuki n'est pas celle de Google, on va dire.
C'est ça.
Bon, merci à tous les deux pour cet épisode hyper fourni, mais on a réussi à couvrir tout ce dont on voulait parler, donc bravo et merci. On va conclure, et avant ça, évidemment, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Julien, est-ce que tu as un compte Twitter ou autre chose ?
Oui, tout à fait, c'est très simple, @JulienInverno, et puis pour le reste, vous pouvez me lire ici et là, que ce soit sur Gameblog, j'ai publié un article aussi récemment sur Gamekult, que je vous invite à découvrir, où on parle en fait d'un jeu qui a été censuré après une critique à l'égard du gouvernement chinois, donc il n'y a pas seulement du jeu vidéo, mais la politique, et on s'interroge aussi sur certaines attitudes de grandes structures comme Steam, quand elles sont soumise à la pression d'État tel que l'État chinois.
Je l'ai raté, il s'appelle comment l'article ?
Ça s'appelle Devotion, le jeu qui a fâché le gouvernement chinois, je crois. Voilà. C'est un contenu premium, mais en fait j'avais eu l'occasion de rencontrer le studio à Taïwan qui a subi cette censure. Donc voilà, on apprend en fait tout ce qui s'est passé durant cette histoire. Et puis aussi, heureusement, ça c'est une bonne chose, on apprend aussi qu'il y a de nouveaux projets pour ce studio qui a un peu un genou à terre, hein, parce que c'est 3 ans de travail qui a été mis à la poubelle à cause d'une blague potache qui était, il explique, une erreur de leur part. Et voilà, je vous invite à lire ça si ça vous intéresse.
Super, merci beaucoup Julien. JK, où te retrouve-t-on ?
Eh bien, on retrouve, c'est bien parce que là, du coup, on couvre quasiment 100% des médias jeux vidéo, enfin, des sites web jeux vidéo, parce qu'on retrouve sur jeuxvideo.com, après Gamekult et Gameblog, pour des sujets plus tech hardware, parce que maintenant, je suis responsable de ça sur jeuxvideo.com, et notamment, en général, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais quasiment tous les vendredis de 16h30 à 17h30 sur le journal du hardware. C'est une émission en direct où on parle de hardware essentiellement, et c'est plutôt cool.
Ah, c'est bien, tu... Pardon, vas-y.
Et dans Twitter, c'est JK Lorek, ça n'a pas changé. JK et la URT.
Tu pourras me conseiller sur une carte graphique de qualité correcte, mais qui soit aussi silencieuse que possible. Je me demande si les MSI avec leur try fan machin sont bien ou pas. Je te poserai la question. Ouais, si vous avez une idée sur une bonne carte graphique qui soit silencieuse, c'est difficile à trouver. Donc, mais je sais pas si je vais acheter maintenant. Ça fait cher quand même. Et puis
attends Black Friday, Noël, tout ça. Là, attends, il va y avoir des promos.
Peut-être, bonne idée. Donc, ok. Comme quoi, faut demander au professeur. professionnel. Bah merci oui. JK et merci Julien. Vos liens, vos comptes Twitter seront en lien dans les notes de l'émission, évidemment. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pourrez trouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez évidemment consulter les notes et avoir laisser des commentaires sur ce site frenchspin.fr, comme je le disais. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, cette émission fonctionne grâce à vous, patreon.com/rdvjeux. Et comme l'évoquait un petit peu en plaisantant JK, c'est vrai qu'on essaye dans cette émission de faire un panorama complet de toute l'industrie et de toute tout l'écosystème francophone du jeu vidéo, et pas que. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de... C'est pas facile, hein, mine de rien, de faire un panel comme ça et d'avoir des invités différents à chaque fois. Mais je pense que ça apporte une vraie valeur à l'émission. Et si vous aussi, vous l'appréciez, si vous pensez qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial qui fait que vous êtes content de l'avoir et que vous voulez l'aider en plus à continuer vers ce but ultime de passer en hebdomadaire, et patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Et je vous remercie infiniment et très chaleureusement de votre soutien. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Bonjour à...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.